Nous sommes en compagnie du journaliste, chroniqueur économique, photographe et auteur Marc Mangin, auteur de Chine, l'Empire pollueur, paru aux éditions Artaud. Alors Marc Mangin, vous avez un sacré parcours international, de l'Europe à l'Afrique et du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient. Comment la Chine est-elle entrée dans votre vie ?
Par hasard, sûrement. En fait, la Chine, j'ai envie de dire, c'est presque rentré. L'Asie, même en général, est presque rentrée dans ma vie par défaut. Moi, j'étais à la base beaucoup plus attaché à l'Afrique. Et il s'est trouvé que dans ma carrière professionnelle, à un moment où je pensais que les choses s'installaient, on m'a proposé de partir aux Philippines. Donc je suis parti aux Philippines, c'était en 1987. Et c'est vrai que la façon de travailler pour un journaliste en Asie n'a rien à voir avec la façon de travailler en Afrique. C'est effectivement un peu plus facile. Donc moi, je me suis pris au jeu et j'ai trouvé que il y avait une relation qui s'instaurait en Asie et aux Philippines en particulier qui ouvrait beaucoup de perspectives. Donc j'ai fini par aller m'installer à Manille et de Manille j'ai commencé à rayonner en Asie du Sud-Est et lorsque je suis rentré, on m'a proposé de monter une newsletter qui traiterait des relations économiques entre l'Europe et l'Asie en général. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'Asie du Nord-Est, que je connaissais évidemment un petit peu, mais je m'étais pas franchement posé des questions. Et la Chine est évidemment devenue le gros morceau de mon travail, d'abord parce que c'est un pays passionnant. C'est un pays qui est fort de tant de contradictions et de paradoxes, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça remet en cause l'observateur qui n'a pas d'idée préconçue. Effectivement, quand on a deux hypothèses, essayons de les analyser toutes. Et puis, je me suis plongé un peu plus dans la littérature, quelques classiques. Je suis pas sinologue, donc je ne lis pas en chinois, je ne parle pas le chinois, mais je pense que nous avons à notre disposition des textes qui sont très correctement traduits, très correctement commentés, et là, d'un seul coup, on s'immerge totalement et on a envie d'en savoir plus. Et il se trouve que, comme j'avais... À cette époque, on est dans les années 90, l'Asie c'était bien loin pour beaucoup de médias. J'avais l'entière liberté de faire à peu près ce que je voulais. Et donc j'en ai profité pour me plonger, pour m'immerger dans la Chine. Et c'est comme ça que petit à petit, pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai bourlingué en Chine, je me suis promené un petit peu partout. Et que cette passion s'est construite, en fait. Parce que je pense que la passion, elle se construit. Je pense pas qu'il faille parler de coup de foudre. C'est une relation. C'est des échanges. Il y a eu des échanges merveilleux avec les Chinois. Je suis un peu parfois surpris dans les conversations que j'ai avec les uns et les autres lorsque l'on me dit oui, mais les Chinois sont froids, ils considèrent l'étranger comme le touriste qui vient. Moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là. Quel que soit, quasiment, je vais dire, les régions que j'ai traversées. Et en 15 ans, je suis revenu dans pas mal de lieux. La photographie m'a ouvert aussi des portes. Pour moi qui ne parle pas le chinois, il y a eu des moments très très forts. Et j'ai trouvé, au contraire, qu'on ne pouvait pas parler de véritable détachement. Je pense que il n'y a pas, contrairement à la relation que l'on peut avoir par exemple ici, il n'y a pas cette superficialité ou cette hypocrisie. C'est-à-dire, ouais, bon, on est là, on gêne parce que on ne parle pas le chinois, mais si on manifeste un intérêt. J'ai eu systématiquement des réponses et du répondant, je vais dire. Et ça m'a appris quelque chose dans le voyage, par exemple. Je m'arrête dans des endroits qui sont pas nécessairement touristiques. Le but de mes déplacements, c'est pas le tourisme. Donc je m'arrête dans des endroits et mon premier souci, c'est de trouver un endroit où manger. Donc je repère un lieu. Je vais dans ce lieu et je suis pas généralement pas très bien reçu. En règle générale, je parle pas le chinois, je connais pas, je suis pas un spécialiste de la cuisine chinoise. Moi, je veux des plats simples, pas chers, et donc on me sert en rabiotant un petit peu la ration. Voilà. Je reviens le lendemain. Alors là, le gars se dit soit ce mec est fou, soit il y a quelque chose que moi j'ai pas compris. Donc je suis servi correctement. Et si j'y retourne une troisième fois, le gars se dit bon bah c'est qu'il aime ma cuisine et ça lui fait tellement plaisir que je suis servi comme un prince et un échange si il y a possibilité d'utiliser la langue, un échange secret, mais s'il n'y a pas possibilité d'utiliser la langue, il y a des sourires et des regards qui ne trompent pas. Et c'est ce qui a construit, puisque vous parliez de la photographie, c'est ce qui a construit mon rapport photographique, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée au-delà de la parole, simplement par des échanges, et lorsque je manifeste mon intention de prendre une photo sur laquelle il y a un homme ou une femme, je sens ou je ne sens pas l'accord implicite qui m'est donné. Et lorsque l'accord m'est donné implicitement et que je prends la photo, il se passe en une fraction de seconde un échange très intense. C'est-à-dire que le sujet photographié est fier d'avoir été choisi par le photographe pour cette photo et le photographe est très heureux d'avoir obtenu l'assentiment du gars. Et du coup, on a des belles photos.
Et on a des beaux échanges. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la Chine que vous êtes devenu photographe ?
C'est une sacrée question. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la qualité des échanges avec la Chine pousse à aller toujours plus loin. Et donc, effectivement, ce qui était peut-être une passion ou ce qui était un passe-temps plutôt est devenu autre chose avec la Chine plus qu'avec les Philippines. Et ce que j'ai appris en Chine de très fort, c'est un calligraphe qui m'a donné cette leçon, c'est que la calligraphie est un art très contraignant. Il faut tracer des traits dans un certain ordre et dans un espace très limité. Et ces contraintes font que, logiquement, il n'y a pas 50 manières d'écrire en chinois. Et il me disait que l'art du calligraphe, c'était de trouver, à l'intérieur d'un cadre contraignant, sa liberté. Et il m'a montré les différentes formes de calligraphie chinoise, donc pour moi, il m'en avait identifié 5. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus. Et il me disait, voilà, si dans un espace sans liberté, vous vous accordez de la liberté, voilà ce que vous pouvez créer. Et à la fois pour la photographie, mais aussi pour l'écriture, parce que je pense qu'à la base, je suis un homme de lettres plus qu'un homme d'image. C'est une leçon qui m'a énormément apporté pour mon travail de communication, on va dire.
Alors l'argentique avec vous n'est pas négociable. Vous êtes un peu de la vieille école.
Je dis pas que c'est pas négociable. Je pense qu'il y a différentes techniques de prise de vue. Il se trouve que moi je suis d'une génération où c'était l'argentique qui primait parce qu'il n'y avait pas de numérique, où on utilisait. Enfin, dans mon milieu, on n'utilisait pas des techniques plus anciennes, le sténopé, le daguerreotype, etc., qui sont toujours utilisées par quelques photographes. Et donc, l'argentique a été pour moi, d'abord le premier contact avec la photographie, et puis, comme j'ai longtemps été pensionnaire et que j'étais un élève très dissipé, très souvent collé les week-ends dans le pensionnat où il y avait un laboratoire qui était le seul espace de liberté dans ce monde contraignant, eh bien, j'en ai profité pour faire un petit peu de laboratoire. Et toujours fidèle à ce que j'ai appris en Chine, je pense que lorsque l'on pratique plutôt une technique, on a toujours quelque chose à apprendre. Et donc, je pourrais me disperser dans de nouvelles technologies, dans de nouvelles modes d'expression artistique aussi, la peinture. Mais je pense que je m'exprime mieux, je me réalise mieux et je prends beaucoup plus de plaisir en continuant à creuser ma technique argentique. Et là encore, les Chinois, je pense, m'ont appris quelque chose et qui a plus trait avec les arts martiaux, mais qui peut s'appliquer à tout domaine. C'est-à-dire qu'un geste 1000 fois répété est plus efficace que 1000 gestes une fois pratiqués. Et donc, la photographie argentique, qui est mon mode d'expression depuis 40 ans, voilà. En 40 ans, je pense que j'apprends toujours, je me défie. Par exemple, sur des contre-jours, sur des ambiances nocturnes qui sont pas faciles, qui sont beaucoup plus faciles d'ailleurs en numérique. Donc, je ne fais pas une opposition. Je pense que la technique argentique est une approche plus humaniste que la photo numérique, qui est une approche plus plasticienne. Et je préfère l'argentique où l'on réfléchit à la photographie avant de la prendre plutôt que le numérique où on produit la photo a posteriori.
Et puis avec l'argentique, on reste toujours un peu un artisan. Alors vous avez écrit « Chine, l'empire pollueur » en 2008. Qu'est-ce qui a changé en 2017 au chapitre de l'environnement ?
Je pense que moi, je ne parlerai pas d'un changement radical. Je pense que la Chine a une conscience aiguë du problème de l'environnement. Je pense également que ce que nous mettons en avant lorsque nous parlons d'environnement, c'est-à-dire la pollution de l'air, la pollution des rivières, la désertification, etc., ce n'est pas ça le problème de l'environnement. Je pense que ça, c'est la conséquence d'un autre problème. Et que ce problème... la Chine, pour moi, c'est un pays en surpoids. Et l'embonpoint, tout le monde le sait, c'est pas très bon pour la santé. Donc, ce qui est valable pour un individu est valable pour un État. La Chine a une masse de population qui est trop importante par rapport à ses ressources alimentaires, minérales, etc. Donc, elle est contrainte de produire beaucoup plus et de consommer beaucoup plus d'énergie naturelle que la nature est elle-même en mesure de recomposer. Et il s'est trouvé que, profitant d'un fossé économique qui a suivi les années Mao et d'un pays à redresser, les Occidentaux ont rajouté à la Chine encore du surpoids. C'est-à-dire que non seulement la Chine, pour satisfaire aux besoins de sa propre population, a détruit les campagnes, mais à partir de la fin des années 70, début des années 80, avec les Occidentaux, elle a fini par détruire les villes, puisqu'on a concentré dans un espace très réduit, la Chine, même si elle est grande, elle est réduite, on a concentré la production du tiers, voire peut-être de la moitié de la population mondiale. Donc il est évident que le problème qu'avait la Chine s'est trouvé aggravé. Alors, pour répondre à la question, entre 2008 et 2017, que s'est-il passé ? Ça s'est aggravé. Naturellement, puisque le mode de production n'a pas changé, le mode de consommation n'a pas changé, et quand je dis ça, c'est pas pour la Chine, c'est pour l'ensemble de la planète. Donc les modes de production et de consommation n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que la demande a augmenté. Donc la demande augmentant, le problème augmente. Et bon, c'est une équation qui est insoluble. C'est-à-dire que tant que la croissance, parce qu'il faut le dire, démographique, la croissance de la consommation, et donc en fait c'est la croissance tout court, tant que l'on privilégiera la croissance de quoi que ce soit au détriment de l'équilibre, le problème s'aggravera. Donc quand aujourd'hui on s'étonne de la qualité de l'air à Pékin ou dans les grandes villes, c'est pas un étonnement acceptable, parce que c'est quelque chose que l'on sait depuis très longtemps. C'est-à-dire que plus plus on va concentrer la production, plus on va concentrer la population, et plus on va exterminer l'environnement et la population elle-même. Donc, à côté de ça, moi je note quand même que, et vous l'avez rappelé, la Chine est le premier producteur d'énergie douce. La Chine essaye, tant bien que mal, de réduire l'usage du charbon dans la production d'énergie. Mais c'est pas simple, parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est pas du charbon, c'est quoi?
C'est l'énergie nucléaire. Voilà. Oui.
Voilà. Donc, alors, si la Chine se met à développer sans limite son parc nucléaire, elle sera attaquée de la même manière. Et l'on sait très bien, et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 2008, déjà, les rapports, les études qui avaient été faites, y compris par les autorités chinoises, montraient que l'utilisation des énergies douces, auxquelles je suis entièrement favorable, ne permettent pas de subvenir aux besoins de mégapoles. Et donc, on revient au problème de départ, qui est, tant que l'on concentre la production et la consommation sur des zones réduites, on va avoir tous les problèmes qui sont liés les uns les autres et qui, en s'agrégant, conduisent à la situation que l'on connaît. Et la Chine, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'étais encore en activité dans des newsletters où, après avoir organisé les zones économiques spéciales des bandes côtières, encourageait les investisseurs, et notamment les Singapouriens, à investir dans le centre du pays, dans l'ouest du pays, de manière à éviter un afflux de population et justement une aggravation du problème. Donc la Chine a eu ce souci-là. Ça n'a pas marché.
Ça marchera peut-être demain.
Oui, il faut rester optimiste. Demain. Et je pense que les Chinois sont optimistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression qu'ils prennent le problème par-dessus la jambe. Mais pas du tout.
Pas tant que ça. Oui.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça du tout. Alors moi, j'ai noté que vous débutez votre livre par « Au commencement étaient le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre ». Mais que signifient pour les Chinois les cinq éléments? Pas la même chose que pour nous, qui n'en avons que quatre d'ailleurs.
Oui, les cinq éléments, c'est une longue, je pense que c'est une longue histoire, et c'est pas, et je pense pas qu'il faille les prendre simplement dans leur sens étymologique. Je crois que c'est dans le sens symbolique, c'est-à-dire que nous formons un tout.
Hein? L'homme et la nature.
Il n'y a qu'un tout, et un tout qui en fonction des associations s'entraide ou se détruit. Et que donc, il y a un équilibre. C'est ça, je pense, le sens profond des cinq éléments. Ou de la... je ne veux pas parler de pensée chinoise, mais il y a une notion d'équilibre qui s'oppose à la notion de croissance. Et dans ce que moi j'ai pu lire des textes chinois, j'ai souvent eu l'impression que on mettait en avant ce souci d'équilibre.
Et que, d'harmonie.
D'harmonie. Oui. Et que l'équilibre, on le voit bien, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose de fixe. L'équilibre, il balance. Et tantôt, ça balance dans un sens, tantôt ça balance dans l'autre. Et ce qu'il faut voir, c'est comment, sur le long terme, on arrive à aller de l'avant.
Eh bien, ce n'est pas facile. En tout cas, c'est Deng Xiaoping et son socialisme de marché qui a lancé la course folle vers le capitalisme et donc vers la destruction des ressources naturelles du pays et la pollution. Parce que finalement, si le pays ne s'était pas ouvert et n'avait pas recherché à tout prix le profit, peut-être que les ressources naturelles auraient été protégées.
Deng avait un autre problème. C'est-à-dire que quand il a lancé cette ouverture en 78, il avait un pays qui était totalement paralysé, d'un point de vue financier, d'un point de vue administratif, d'un point de vue industriel. Et le pays, de mon sens, ne pouvait pas relancer sa machine sans un appel d'air. Et l'appel d'air, il a été, on le sait, donc permis par l'arrivée des Occidentaux qui se sont bien fait berner quand même dans l'histoire. Il faut quand même pas l'oublier. Et ça a été un sacré coup de maître ce qu'il a fait. Mais la question est antérieure à Deng. La Chine a toujours eu des angoisses terribles. Les angoisses de l'invasion, les angoisses de la famine, les angoisses de ne pas avoir ce dont elle avait besoin. Et donc la question alimentaire en Chine ne date pas d'aujourd'hui. Et la Chine n'a jamais pu subvenir aux besoins de sa population. Et donc, c'est l'ensemble, je pense, de ces questions qui a amené Deng à ouvrir le pays aux capitaux étrangers. Donc, à partir du moment où les barbares étaient là, il a fallu dealer avec eux. Et c'est là où je pense que, intellectuellement, il y a eu un avantage pour les Chinois. C'est-à-dire que leur stratégie a reposé sur la collaboration, dans des termes discutables, mais rien n'a été imposé. Alors que, et c'est ce qui fait le drame de beaucoup d'entreprises françaises en particulier, c'est que les entreprises françaises débarquent dans des pays étrangers avec une approche, on va dire, plutôt coloniale. C'est-à-dire, bon, on va vous dire ce qu'il faut faire, vous allez faire ce qu'on vous dit, etc. Et ça ne se passe pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Donc c'est ce qui explique, quand on évoque le retard ou les difficultés des entreprises françaises sur le marché chinois, on n'a pas cette culture de la négociation, du compromis et de l'équilibre. C'est-à-dire, ben, je vais lâcher ici parce que tac, ça va revenir de l'autre côté. Et au final, je vais avoir gagné. Donc les Deng a ouvert l'économie du pays. Ceux qui s'y sont engouffrés ont fait une grande confusion, c'est-à-dire qu'ils ont confondu un marché de consommateurs avec une population. Donc ils sont arrivés en se frottant les mains, chic, 1,4 milliard de Chinois, si je leur vends à chacun une bricole à 1 euro, je suis milliardaire demain. Et donc c'est comme ça qu'on a eu, sur deux domaines en particulier, l'automobile et la construction, on a eu des investissements massifs sur des marchés qui n'existaient pas. Et une fois que ces investissements ont été réalisés, les investisseurs qui étaient pris au piège n'ont plus eu d'autre choix que de rajouter, de remettre au pot, de manière à ne pas perdre leur investissement de départ qui était le plus important. Et c'est typiquement ce qui s'est passé dans le secteur automobile. Il a fallu, pour les constructeurs français, 15 ans avant de retirer un yuan de leur investissement.
15 ans, ça fait long. Alors en tout cas, la Chine aime bien les barbares que nous sommes, puisqu'en 2001, elle rentre dans le club fermé des plus grands capitalistes de la planète, l'Organisation mondiale du commerce, plus connue sous le nom de OMC. Et à partir de là, on peut dire que la Chine a échangé la qualité de son environnement contre son développement économique. J'ai l'impression que c'était un peu le pacte de Faust avec le diable.
Alors, c'est toujours pareil. La Chine a fait une concession qui était nécessaire. D'abord, l'accord par lequel la Chine a adhéré à l'OMC a été accepté plutôt à l'OMC. Je crois que ça a duré 18 ans de mémoire, les négociations. 18 ans pendant lesquels la Chine a été confrontée à l'ouverture d'abord et puis à la fermeture. Hein, il y a eu Tiananmen, il y a eu Li Peng, qui a été Premier ministre pour remettre l'orthodoxie politique au goût du jour. Et puis, il y a eu Zhu Rongji, qui a été le... Moi, je dis le Gorbatchev. Alors, ça peut peut-être choquer Gorbatchev chinois. C'est le gars qui a un peu calmé les esprits. Quel était le problème de Zhu Rongji? Zhu Rongji, il a été amené aux affaires pour assurer le passage d'une économie centralisée, bureaucratique, administrative, vers une économie de marché, effectivement. Et donc, il s'est retrouvé à devoir virer, mais carrément virer, des millions de fonctionnaires, de gens qui étaient salariés par l'État.
Oui, le fameux bol de riz en fer.
Voilà. Mmh. Hein, ils avaient un certain nombre d'avantages, petits, mais ils avaient un certain nombre d'avantages. Et donc, quand on met 5 millions de gens sur le carreau, soit on s'attend à une révolution, soit on leur offre autre chose. Et donc, L'adhésion de la Chine à l'OMC, l'accord qui est auquel les partis sont parvenus, tenait compte de ce paramètre. C'est-à-dire qu'une fois de plus, comme en 78, 20 ans plus tard, la Chine n'avait pas terminé son basculement, sa sortie de l'économie maoïste. Il y a eu une première ouverture en 78 avec Deng. Elle n'a pas suffi parce que cette ouverture n'avait pas réglé le problème fondamental de la Chine, qui était un secteur public totalement disproportionné avec les besoins et les moyens de l'État. Donc il a fallu liquider cette administration, liquider ce secteur public. Ça a été partiellement, et puis ça a été à partir de ce moment-là où on a vu que tous les petits barons de province s'en sont mis plein les poches et ont repris à leur compte le truc. Mais voilà, ça n'a pas été... Je pense qu'ils n'ont pas vendu avec joie. Ils n'ont pas échangé aussi sereinement leur environnement contre leur adhésion à l'OMC. Mais il se trouve qu'effectivement, ça a eu pour conséquence de booster, de donner un deuxième élan à l'économie chinoise. Je pense qu'il est quand même intéressant de préciser que quand l'OMC a accepté la Chine, tout le monde s'est dit « chouette, les portes de la Chine sont ouvertes ». Effectivement. Et ceux qui pensaient ça disaient « ça veut dire qu'on peut aller en Chine ». Et ils n'ont pas pensé que ça pouvait aussi venir de la Chine.
Oui, tout à fait.
Et
oui,
c'est là qu'après, ils se sont dit oh, « les Chinois, ils ne sont pas gentils, ils nous envahissent de produits ». Mais attendez les gars, c'est vous qui avez été les chercher.
Tout est ouvert de toute façon.
C'est l'OMC qui a convaincu, qui a travaillé, qui a pétri l'affaire pour que la Chine rentre à l'OMC. Donc si la Chine rentrait à l'OMC, ce n'était pas simplement pour laisser rentrer les produits étrangers, c'était aussi pour avoir des débouchés à sa propre production.
Et c'est ce qu'on appelle un accord gagnant-gagnant.
Absolument.
Alors on a l'impression, au vu de l'Europe, que la Chine est un grand pays en superficie, c'est vrai, elle fait quand même 9 millions de kilomètres carrés, et les Chinois qui totalisent 20% de la population mondiale ont de la place. En fait, on a l'impression qu'ils ont de la place, mais en fait, c'est pas le cas. Et c'est peut-être justement cette forte densité qui explique la politique agricole chinoise.
Tout à fait. Bon, moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que quand on a retiré les zones montagneuses qui sont inexploitables, les zones désertiques qui ne le sont pas plus, s'il reste 40% du territoire chinois, je crois que la densité de population...
Vous dites qu'en 2008, hein, il y avait 350 habitants au kilomètre carré.
Voilà, c'est ça, j'allais arriver à ça.
On suppose que maintenant, il y en a beaucoup plus.
On est dans une configuration qui ressemble aux micro-États. C'est-à-dire qu'il y a une densité de population en Chine qui est aussi importante qu'à Monaco ou au Luxembourg, voire en Belgique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand territoire, mais la majorité de ce territoire... n'est pas exploitable, enfin j'aime pas le mot exploiter, n'est pas
cultivable en tout cas.
Voilà, on peut pas, c'est pas cultivable. Et donc c'est ce qui fait que si l'on regarde par exemple la surface agricole dédiée à chaque Chinois, on est peut-être à un tiers de ce que ça représente pour un Français par exemple. Et donc pendant très longtemps la Chine s'est dit, bon, on n'a pas beaucoup de terrain, mais le peu qu'on va, on va le faire produire un maximum. Donc il y a eu une première, c'est Mao qui avait insufflé un petit peu ce processus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les moyens, la Chine était à l'index de la communauté internationale, puisque l'on n'a pas les moyens d'amener l'eau dans des territoires reculés, on va déplacer les populations des territoires reculés vers l'eau. Et donc, on a organisé des migrations vers les grands bassins fluviaux, qui étaient des terres agricoles. Et évidemment, quand on déplace une population sur une terre agricole, on se prive de la terre agricole, puisqu'on va construire des maisons, on va construire des routes, etc. Donc on a eu ce phénomène-là. Alors, il y a eu une utilisation démesurée d'engrais et de pesticides, en se disant, bon, ben, on va avoir des bons rendements. Mais la Chine n'est jamais parvenue à avoir les rendements qui lui permettraient de nourrir sa famille. En revanche, ce qui s'est passé à la fin de cette politique, c'est que, d'une part, on avait déplacé les populations et urbanisé les zones agricoles, et on avait ravagé la plupart des fleuves, des nappes phréatiques et des ressources aquifères. Donc, il faut... Alors, je pense qu'il y a, et on peut toujours dire qu'il n'y a pas suffisamment... La politique chinoise en matière de nettoyage des fleuves et des nappes n'est pas suffisante. Moi, j'ai l'impression que pour eux, c'est pas la préoccupation du moment et qu'ils pensent que quand le moment sera venu, on s'occupera du problème. Mais ce qui veut pas dire que je suis d'accord avec le fait que, bon, en attendant, il faille polluer.
Mais du coup, ils achètent des terres ailleurs pour se nourrir.
Oui, bien sûr.
En Afrique, en Amérique latine.
Oui. Mais ça, alors, en Amérique latine, peut-être un peu moins, et pas pour les mêmes raisons. Il y a un embonpoint, un surpoids, que en 2008, les Chinois évaluaient à 150 millions de personnes.
Ah oui, ouais. 150 millions en trop pour pouvoir les nourrir,
ouais,
correctement.
Ouais. Non seulement pour pouvoir les nourrir, mais pour pouvoir leur assurer un travail, un revenu, des conditions de vie décentes. Il y a 150 millions, c'est un rapport officiel que tout le monde connaît. C'est les Chinois eux-mêmes qui l'ont dit. Ils ont dit que sur ces 150 millions, s'ils pouvaient en garder 20 millions, ça serait le grand maximum. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait des autres ?
On a 130 millions de gus qui, d'ici 2050, vont poser un gros problème à la Chine. Donc la Chine.
Ce sont des mingongs en puissance, donc.
Donc la Chine a décidé d'encourager une émigration. Et cette émigration, elle a été encouragée essentiellement vers l'Afrique. Pour des tas de raisons. Alors, ce n'est pas une conquête coloniale, impérialiste, comme ça a été le cas pour les puissances européennes. C'est moi, je veux pas. Pour moi, c'est pas une conquête du tout. C'est plus un partenariat, c'est-à-dire qu'il y a une demande de la part des Africains que les Occidentaux, les Européens en particulier, à laquelle les Européens n'ont jamais répondu. Et donc, les Chinois qui sont là... Moi, j'étais soigné en Afrique, il y a 30 ans, dans un petit hôpital de Brousse. C'était un médecin chinois qui était là, qui ne parlait pas un mot de français et qui avait son interprète pour essayer de me soigner. Ça s'est très mal passé, mais en tout cas, le médecin qui était là, c'était un Chinois. Une chinoise même. Et donc, les Chinois sont là depuis très longtemps. Ils font, contrairement à ce qu'on dit, ça fait pas 10 ans qu'ils sont là, les Chinois. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, c'est comme les Libanais. Ils sont là et ils font ce que les Occidentaux n'ont jamais voulu faire, c'est-à-dire s'occuper des projets qui sont pas rentables. Donc, il y a des liens qui se sont développés. Et puis les Africains, qui ne sont pas des imbéciles, ont bien compris aussi l'intérêt qu'ils avaient à travailler avec les Chinois. Et alors, bien sûr que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais, en tout cas, la Chine a mis en place cette stratégie et elle finance. Il y a une banque dédiée pour ça. On donne une allocation aux paysans chinois qui veulent aller s'installer, notamment en Afrique de l'Est.
Effectivement. Alors, vous terminez votre livre par un chapitre intitulé « Quand la Chine s'attablera, le monde mangera ». Nous étions en 2008, l'année des Jeux Olympiques. Diriez-vous la même chose aujourd'hui ?
Oui, quand la Chine s'attablera, le monde mangera, ça veut surtout dire que le jour où les Chinois... auront le même appétit que le reste, enfin que le monde occidental, pour être précis, on va être dans une situation assez catastrophique. Pourquoi ? Les Chinois ont compris, après nous, certes, mais ils ont compris qu'il était plus intéressant, financièrement et écologiquement, d'importer ces denrées alimentaires plutôt que de les produire et que de les stocker. Ça, c'est une première chose. Ils ont aujourd'hui des réserves de change qui leur permettent d'acheter ce qu'ils veulent. Même si la croissance de cette réserve faiblit, ces réserves sont très, très confortables. C'est-à-dire que demain, si la Chine décide d'acheter la récolte américaine de céréales, par exemple, au double de sa valeur, Compte tenu des règles économiques en vigueur, ils achèteront cette récolte de céréales et les Américains feront ceinture.
Même l'Amérique de Trump ?
Oui. 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 Oui, parce que on est dans un système économique très individualiste et celui qui a quelque chose à vendre le vendra au plus offrant.
Oui, ça s'appelle le capitalisme en fait.
C'est du capitalisme et Trump, à ma connaissance, est un capitaliste.
C'est vrai. On ne peut pas trouver mieux. Mais ça veut donc dire aussi que les Chinois ont quand même des billes.
Les Chinois ont énormément de billes. D'une part, on parlait du fait qu'ils achètent des terres. Je pense qu'ils ont, au-delà de ça, ils ont réalisé des investissements, pas qu'en Afrique, mais en Europe, pour contrôler une partie de la chaîne de distribution alimentaire et une partie de la chaîne agroalimentaire.
Et vous citez dans votre livre l'histoire des tomates provençales qui sont devenues chinoises.
Voilà. Mais il n'y a pas que les tomates. Ils ont coulé quasiment l'industrie européenne des asperges.
Ouais. Les asperges sont devenues chinoises aussi.
Ah, les asperges, vous allez dans les supermarchés, quasiment toutes les asperges en boîte, vous regardez, c'est made in China.
Ah oui, ça ne m'est pas venu à l'idée de regarder les boîtes d'asperges.
Ah ouais. Et sur la tomate, on parlait de la tomate. En fait, la stratégie chinoise, elle est à double sens. Elle est d'une part de s'assurer l'approvisionnement de sa population et d'autre part d'écouler la production de sa... Et donc pour la tomate, la Chine qui est le premier producteur mondial de tomates, pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée aux tomates de Provence? Voire, il y a eu aussi les tomates italiennes. Enfin, ils sont dans la tomate conditionnée. Ils sont les rois. Et donc, toutes les tomates du Xinjiang se trouvent dans les boîtes de tomates que l'on achète en Italie ou la plupart des tomates en France.
Bon, ben voilà. Alors, quand on dit « Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces tomates ?» Elles ont tout le soleil italien. En fait, elles ont tout le soleil de la Chine. Marc Mangin, merci. Donc, je rappelle la publication de Chine, l'Empire pollueur aux éditions Artaud. Et même si cet ouvrage date de 2008, on y apprend des choses bien intéressantes. Je rappelle aussi l'exposition de vos photographies à Lille, du 24 février au 28 mars au Zango, dans le cadre de la manifestation Haut les livres, organisée par l'Association des éditeurs des Hauts-de-France et à l'initiative de la librairie de voyage Autour du monde, qui est rue de Paris à Lille.